La revue de presse internationale.
La revue de presse internationale avec Camille Magnard. Et Camille, ce matin, vous nous proposez une plongée dans l'univers des banquiers de l'État islamique.
Oui, c'est une enquête très fouillée du Wall Street Journal réalisée entre l'Irak, la Turquie et la Jordanie. Et elle s'ouvre, cette enquête, sur un constat. Une année de frappes américaines et de sanctions économiques contre Daesh n'ont pas réussi à couper ces réseaux bancaires qui alimentent chaque jour en cash les régions tenues par les islamistes. Des centaines de milliers de billets qui circulent et qui font vivre l'économie locale dans ces territoires conquis. Tout ça grâce donc à des centaines d'agents de change et de transfert d'argent irakiens coupés du système bancaire international, mais qui sont présents sur le terrain depuis toujours. On a l'impression Daesh est bon pour le business. Daesh respecte les lois de l'argent plus que celles de la religion ou de la politique, disent ces hommes d'affaires locaux. Il serait environ 1600 rien qu'en Irak à avoir trouvé avec le nouvel occupant un partenaire conciliant, tant qu'on ne pose pas de questions. Des courtiers privés, héritiers de la tradition arabe de l'Awala, qui s'approvisionnent sans difficulté en cash auprès des grands bazars d'Istanbul en Turquie ou d'Amman en Jordanie. Les deux pays sont officiellement engagés dans la lutte contre le groupe État islamique, mais ils laissent passer les porteurs de valises. Et le fait est que l'argent transite beaucoup plus facilement que l'aide humanitaire. Les convoyeurs savent s'allier, moyennant commission bien sûr, aux ennemis de Daesh, les milices chiites et kurdes, pour passer sans encombre les lignes de front. Ils font aussi office de percepteurs pour reverser aux djihadistes leurs 10% de taxes religieuses, le zakat, surtout les transactions effectuées. C'est donc cet argent qui alimente la trésorerie du groupe État islamique, qui permet de payer les combattants, mais surtout qui permet aux populations locales d'acheter tout ce qui leur permet de continuer à vivre là-bas. Couper ce réseau de petits bureaux de change, ça créerait un choc économique dévastateur en Irak, reconnaissent les dirigeants du pays. Les enquêteurs du Wall Street Journal, eux, constatent que le commerce de l'argent liquide connaît un essor foudroyant à chaque fois qu'une ville est conquise par Daesh, et que ce soit à Bagdad ou à Washington, on n'arrive toujours pas à trouver comment fermer ce robinet à liquidité.
En Syrie, cette fois, les petits arrangements de l'ONU avec le régime Al-Assad posent question.
Question soulevée par le New York Times autour de la nomination comme consultante locale à l'OMS de Shukriya Mekdad, la femme du vice-ministre syrien des Affaires étrangères. Elle vient donc d'obtenir un poste au sein d'une équipe chargée d'un rapport sur les conséquences de la guerre sur la santé mentale des enfants syriens. Une guerre, nous rappelle le quotidien américain, dont son mari est l'un des plus éminents acteurs. Mais faut-il vraiment s'étonner de ce recrutement ? L'OMS fait face depuis des années à des complications administratives interminables qui l'empêchent d'acheminer son aide médicale et sanitaire dans les zones qui sont contrôlées par les rebelles parce que le gouvernement syrien l'interdit. Des gens meurent à cause de ça, rappelait récemment un membre de l'Organisation mondiale de la santé à Damas. Alors en nommant la femme du ministre à un poste secondaire, l'agence onusienne fait donc un geste envers le régime, mais ça alimente bien sûr les critiques sur ces petites compromissions pour la bonne cause. Le groupe des médecins syriens pour les droits de l'homme s'étonne par exemple du silence de l'OMS sur le fait que, de plus en plus souvent, des centres de santé en territoire rebelle sont pris pour cible, détruits par des bombardements de l'armée de Bachar al-Assad ou des bombardements de son allié russe. Ceux qui travaillent dans ces centres voudraient bien que l'organisation internationale les soutienne plus pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires ou simplement exiger l'arrêt des bombardements sur les hôpitaux.
Alors justement Camille, l'arrêt des bombardements, ou en tout cas d'une partie d'entre eux, c'est ce qui est en jeu avec le cessez-le-feu qui doit entrer en application demain en Syrie, dont nous parlait il y a un instant Hubert Védrine.
Oui, cessez-le-feu très partiel qui ne concernera pas, on le disait, les frappes contre l'État islamique et contre les rebelles du front Al-Nosra qui est lié à Al-Qaïda. N'empêche, la journée de ce vendredi est cruciale pour la Syrie, déclare dans le New York Times l'envoyé de l'ONU dans le pays, Staffan de Mistura. Ce soir prendra fin l'ultimatum à l'issue duquel le régime de Bachar al-Assad et l'opposition syrienne doivent confirmer leur soutien ou non à la cessation temporaire des hostilités. Ensuite, on pourra fixer une date pour reprendre les négociations de paix à Genève. Elles sont ces négociations au point mort depuis 3 semaines. Mais les changements intervenus sur le terrain, enfin, s'ils interviennent demain, ces changements, ils permettent à Staffan de Mistura d'être optimiste. Il reconnaît tout de même que ça ne va pas être évident de faire le tri entre les groupes rebelles qui pourront toujours être bombardés et les autres. La guerre, concrètement, en Syrie, c'est une mosaïque confuse de lignes de front entre des groupes rebelles hyper morcelés. Des diplomates occidentaux dans le pays avouent au New York Times qu'ils sont encore en train de démêler qui combat qui, à quel endroit, et que la carte reste très floue pour le moment. Mais au moins, une pause dans certaines frappes aériennes devrait permettre d'accéder à certaines villes assiégées où l'aide humanitaire ne peut arriver par la route pour le moment. 1,5 million de Syriens en auraient tragiquement besoin. Seuls 110 000 ont pu y avoir accès pour l'instant, selon les chiffres de l'ONU. Et hier, on apprenait dans le Washington Post qu'il ne faut pas se fier non plus aux largages aériens d'aide alimentaire menés au-dessus de ces villes assiégées. 10 palettes de nourriture sur 21 parachutées ces derniers jours au-dessus de la ville de Deir ez-Zor sont tombées au mauvais endroit à cause de mauvaises conditions météo. Le plus probable, c'est qu'elles aient atterri directement dans le garde-manger de Daesh.